Et ce matin, sur les ondes médias, je le disais en début d'émission, on fait un zoom sur la démence sénile. Cette pathologie qui touche principalement les personnes âgées, elle se manifesterait par une perte de mémoire, des problèmes psychotiques ou encore des troubles de l'humeur. Pour y voir plus clair, avec nous, docteur Othmane Lorabi. Bonjour docteur.
Bonjour et ravi d'être avec vous sur les ondes de médias radio.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes spécialiste en psychiatrie, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie et psychodynamique à Casablanca. D'abord, comment peut-on définir la démence sénile et puis quelles peuvent en être les formes, nous ?
La démence sénile, c'est une ancienne dénomination parce qu'aujourd'hui, on parle de démence au pluriel. Quand on parle de sénile, effectivement, ça fait, c'est en rapport avec la sénescence, oui. C'est-à-dire une pathologie qui est liée au vieillissement et non pas un vieillissement normal. Et par le terme démence, on va regrouper un ensemble de choses qui vont, comme vous l'avez très bien dit, concerner une altération de la mémoire, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est une altération qui est significative d'un ensemble de processus cognitifs. Donc, il y a la mémoire, il y a l'apprentissage, il y a le langage, il y a les capacités instrumentales, ce genre de choses. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs types ou sous-types de démence. La plus connue étant ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, hein, la démence type Alzheimer. Mmh. Mais il y a un très grand nombre d'autres types de démence qui vont répondre soit à des maladies, vasculaires qui évoluent sur le long cours. Ça va être ce qu'on appelle les démences cérébrovasculaires. Il y a un autre type, enfin d'autres types de démences qui vont être caractérisé plutôt par le lieu de l'atteinte. Par exemple, on va parler de démence frontotemporale, on va parler de démence à corps de Lewy. Et puis, il y a aussi un grand pan, de démence qui sont aussi liées à l'évolution de certains troubles neurologiques connus, comme la maladie de Parkinson ou autres. Donc, mais ce qui est commun par rapport à toutes ces formes, c'est toujours cette notion d'altération significative des processus cognitifs, ou plutôt des capacités cognitives, par rapport au fonctionnement antérieur de la personne. Hein, soyons clairs, c'est-à-dire qu'il y a une diminution nette et palpable qui va le plus souvent être constatée par l'entourage proche de la famille et quelquefois même aussi par le clinicien, c'est-à-dire le médecin, lors de la consultation médicale.
Alors, quelles peuvent en être les causes ? On a parlé de personnes d'un certain âge, mais quelles peuvent en être les autres causes, docteur Lorabi ?
En fait, il y a... Alors, juste par rapport au vieillissement, c'est clair que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'il y a une augmentation, statistiquement parlant, une augmentation de l'incidence de ces maladies. Alors, ça peut être effectivement en lien avec le vieillissement global de la population, mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que l'apparition d'une démence ne fait pas partie d'un processus normal. Hein, on est bien effectivement dans la pathologie et ce n'est pas lié à la vieillesse, mais il se trouve que ce sont des maladies qui apparaissent chez les seniors. Il y a bien sûr des exceptions parce que, par exemple, quand on va parler de la maladie d'Alzheimer, oui. Qui, valeur aujourd'hui, a toujours des étiologies qui sont inconnues. On ne connaît pas la cause avec certitude de comment se constitue ce trouble. Mmh. Il y a un ensemble d'anomalies qu'on va voir dans les imageries, etc. Mais de là à savoir pourquoi est-ce que les choses évoluent de cette manière, valeur aujourd'hui, on n'en sait rien. Je vous le dis honnêtement. Mais ce qui est constaté, c'est que effectivement, ça apparaît chez les personnes âgées. Mais il y a des formes familiales, ce qui laisse supposer la présence de multiples gènes qui favorisent la démence d'Alzheimer, donc qui peuvent apparaître, y compris chez les sujets jeunes, moins jeunes. C'est juste pour faire un petit peu le distinguo entre le processus de vieillissement et la démence type Alzheimer. Les autres étiologies, comme je les ai dites, mais je vais un peu plus les préciser, c'est toutes les maladies qui vont atteindre les petits vaisseaux. Alors, quelles sont ces maladies? On va parler d'hypertension artérielle, on va parler d'hypercholestérolémie, on va parler aussi de diabète. Hein, ce sont des maladies qui vont comporter lors de leur évolution une atteinte des vaisseaux de plus petit diamètre, et le cerveau est plein de petits vaisseaux sanguins. Donc on peut imaginer automatiquement que quand la microcirculation sanguine cérébrale va être un peu compromise ou diminuée, eh ben on va avoir un ensemble de troubles cognitifs qui vont être en rapport. L'autre chose qui est très très connue aussi, et qui malheureusement peut-être quelquefois passe un peu à la trappe, c'est toutes les démences qui vont être d'origine un petit peu, je dirais, toxique. Mmh. Et là, notamment, je pense à l'utilisation d'alcool, je pense aux démences qui vont être secondaires à l'utilisation abusive d'anxiolytiques ou de somnifères, et aussi par rapport à d'autres types de drogues, surtout les substances inhalées, les solvants volatiles. Ça aussi, ça compromet au long cours nos capacités intellectuelles, ou plutôt cognitives, et donc ça peut former le lit de l'apparition de troubles, d'une démence. Et enfin, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a aussi l'apparition de démence au décours ou dans les suites de l'apparition d'une maladie de Parkinson. Ça aussi, c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquemment vu. Mais il y a aussi d'autres types d'atteintes neurologiques, comme la maladie de Huntington, qui peut donc qui va certainement le plus probablement donner lieu à l'installation d'une démence après plusieurs dizaines d'années d'évolution.
D'accord. Alors, une question qui revient peut-être très très souvent, quand est-ce que la psychothérapie devient nécessaire, docteur?
Alors, la plupart des démences, les personnes qui en souffrent ne sont pas forcément conscientes tout le temps, oui, qu'elles ont un problème justement d'ordre démentiel. Et si vous voulez, la psychothérapie est vraiment souvent importante quand on est dans des phases précoces de déclin cognitif, quand la personne a toujours un peu conscience des difficultés qui sont en train de s'aggraver et de leur implication sur la vie quotidienne. Mais la psychothérapie et l'accompagnement est surtout nécessaire auprès de l'entourage proche, l'entourage familial, c'est-à-dire que par rapport à ces démences, la notion de personne ressource, c'est-à-dire l'entourage qui est autour de la personne qui souffre de démence et qui va le suppléer tous les jours dans les actions de la vie quotidienne, parce que pour l'alimentation, pour l'habillement, pour beaucoup de choses, eh ben il faut une assistance, surtout dans les stades avancés de la maladie. Eh ben ces personnes aidantes se retrouvent le plus souvent en proie à d'authentiques dépressions, avec tout ce qui s'ensuit de souffrance, etc. Et là aussi, la psychothérapie par rapport à la famille de la personne qui souffre de démence est éminemment importante, avec un accompagnement qui soit adapté.
Alors justement, si la personne n'est pas bien accompagnée, quels peuvent en être les risques donc ?
Le problème des démences, c'est toujours les problèmes qui sont liés à l'aggravation de l'état démentiel. Et quand on parle de l'aggravation de l'état démentiel, on peut imaginer que quand notre mémoire est compromise, quand il y a ce qu'on appelle un syndrome confusionnel, quand on est confus, c'est-à-dire désorienté dans le temps et dans l'espace, eh bien on peut avoir de l'agitation, il peut y avoir des violences qui sont commises par la personne qui a ce type de démence, avec aussi d'authentiques délires qui commencent à apparaître, avec des thématiques assez récurrentes, comme quoi il y a eu des vols à l'intérieur de la maison, comme quoi il y a des personnes qui sont venues, par exemple, à la maison pendant la nuit, ce genre de choses, qui rendent beaucoup plus compte de la détérioration de la mémoire et de la capacité à replacer les choses, ou plutôt nos souvenirs dans le continuum temps. Mmh. Mais aussi, ça peut aussi donner lieu à des choses un peu plus dramatiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fugues pathologiques, c'est-à-dire où la personne qui a une démence et qui a des problèmes d'orientation peut sortir de son domicile et peut-être s'éloigner, s'égarer, et ne pas pouvoir retrouver son chemin. Enfin, ce sont des choses, malheureusement, qui sont assez fréquente dans le cadre des démences, surtout à un stade avancé, quand il n'y a pas, un entourage familial extrêmement présent.
Alors, en termes de traitement, comment ça se passe? Et puis, quand est-ce que vous pensez à l'hospitalisation de ces personnes qui en souffrent?
Alors, le traitement, je vais être très rapide parce que le traitement dépend bien sûr de l'étiologie, du type de démence, du terrain de la personne, parce que justement, quand on parle de pathologie liée à la vieillesse, le plus souvent, il y a aussi d'autres maladies avec d'autres médicaments. Donc, bon, c'est assez compliqué, mais voilà, il y a des médicaments qui peuvent être adaptés à tel ou tel type, des médicaments qui peuvent soulager tel ou tel symptôme. Voilà, concernant le traitement. Alors, concernant l'hospitalisation, je vais vous dire que la règle pour les démences, c'est quand même le maintien à domicile. Hein, parce que on sait, surtout pour, par exemple, la démence type Alzheimer, que le changement de lieu de vie, le changement d'environnement peut causer une période d'instabilité avec de l'agitation, avec des troubles du sommeil, ce genre de choses. Donc, même quand il y a une aggravation, même quand il y a par exemple des troubles du sommeil assez forts ou des éléments délirants qui apparaissent, si on arrive à mettre en place les aides suffisantes à domicile et la présence suffisante à domicile, la règle c'est de garder la personne à la maison. Après, justement, quand l'entourage fait défaut, entre guillemets, ou tout simplement quand l'entourage... ça arrive assez souvent quand l'entourage n'en peut plus et commence à montrer des troubles aussi psychiatriques, type dépression, ce genre de choses. Mmh. Là aussi, bon, l'hospitalisation est le plus souvent recommandée, mais une hospitalisation courte, le temps d'arriver à mettre en place des nouvelles mesures d'aide et d'accompagnement à domicile, justement pour pouvoir regagner le lieu de vie habituel.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est possible de prévenir la démence sénile?
Oui, il est possible de prévenir certaines formes, en tout cas, notamment tout ce qui est cérébrovasculaire. Hein. Là, on renvoie à la notion d'hygiène de vie, à la notion d'activité physique régulière pendant toute la vie de l'individu. On renvoie aussi au fait qu'il faut essayer de garder une activité intellectuelle. Quand je parle d'activité intellectuelle, ça peut être de la lecture, ça peut être du sport cérébral, les mots fléchés, les mots croisés, ce genre de choses. Donc là, il y a un certain faisceau d'arguments qui tend à démontrer que la pratique de ce genre de choses aurait un effet bénéfique justement dans la prévention de l'apparition des démences. L'alimentation a aussi un rôle extrêmement important parce que bon, à travers l'alimentation, on va modifier un petit peu l'état d'inflammation globale hein, du corps, hein, notamment quand on va manger beaucoup de sucreries, beaucoup de corps gras, etc. Donc tous les marqueurs pro-inflammatoires vont augmenter dans le corps. Et on sait aujourd'hui justement que l'une des pistes éventuellement par rapport à la maladie d'Alzheimer, ce serait éventuellement des histoires d'inflammation chronique qui causent des dépôts. Mais bon, tout ça, on en est toujours un petit peu au stade de découverte. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les formes cérébrovasculaires, une bonne hygiène de vie, un bon contrôle de l'hypertension artérielle quand elle existe, un bon contrôle du diabète avec un suivi régulier, eh ben c'est éminemment important.
Voilà, et c'est le secret de maintenir une bonne santé mentale, docteur Lorabi.
Absolument, absolument, vu que notre mental repose sur notre cerveau et que notre cerveau fait partie intégrante de notre corps.
Merci beaucoup, docteur Athmane Lorabi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie. Vous êtes secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Merci d'avoir été avec nous cette semaine encore.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et c'est un entretien réécoutable sur notre site medien.com.